RCF.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF pour la chronique Europe de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Lors d'une précédente chronique, nous avions évoqué le réseau BELC, Bâtir l'Europe avec les élus locaux, qui vise à améliorer la communication entre les institutions européennes et les citoyens grâce aux élus locaux. Ces derniers, et plus précisément les conseillers régionaux, font également partie du Comité européen des régions, organe qui fête ses 30 ans d'existence en 2024. Il y a deux mois, du 7 au 10 octobre, était célébrée la Semaine européenne des régions et des villes. Isabelle Boudinot, déléguée de l'Europe à la région Nouvelle-Aquitaine, y a participé et a pu mettre en avant les intérêts notamment de notre région. Pour mieux comprendre le rôle du comité et l'importance des régions au sein de l'Union européenne, nous l'accueillons aujourd'hui. Bonjour Isabelle, merci d'être avec nous.
Bonjour à tous.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ?
Oui, très bien. Alors je suis élue de Nouvelle-Aquitaine et depuis la fusion des trois anciennes régions en janvier 2016, donc fusion de Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine, je suis chargée des dossiers européens et donc en particulier de tout ce qui concerne la gestion des fonds européens par la région. Et je suis également désignée par le président Alain Rousset et par Régions de France, donc l'association qui représente les 18 régions françaises, pour siéger au Comité européen des régions à Bruxelles.
Et donc, comme vous venez de l'indiquer, dans le cadre de votre mission, vous faites partie du Comité européen des régions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste concrètement, ce comité ?
Alors, il est constitué uniquement d'élus locaux, municipaux, départementaux, régionaux, selon les différentes strates des 27 pays de l'Union européenne. Et nous sommes exactement 329 titulaires qui siégeons dans cette instance. Plusieurs fois par an, il peut dire 6-7 plénières par an. Et puis, comme pour l'Assemblée nationale, le gros du travail se fait dans les commissions. Et j'ai le plaisir de siéger à la commission cohésion des territoires, qui est en fait celle qui s'occupe des fonds structurels européens, puisque cette politique des fonds structurels européens est appelée politique de cohésion à Bruxelles. Donc on est une délégation française de 12 titulaires et 12 suppléants, qui sont représentés pour moitié par des élus régionaux, pour un quart par des élus départementaux et pour un quart par des élus municipaux. Comme... Voilà, la délégation française fait un lobbying, évidemment, qui est un mot positif à Bruxelles. Il s'agit vraiment de défendre l'intérêt de nos différents niveaux de collectivités et pour expliquer que beaucoup de choses sont bien gérées quand elles le sont à des niveaux locaux. C'est évidemment mon rôle, moi, au niveau régional, en plus avec la gestion des fonds européens par les régions, de décrire, d'apporter des arguments, d'apporter la preuve que les fonds européens de cette politique de cohésion sont bien dépensés et font progresser le quotidien des habitants dans nos régions. Donc c'est vraiment un travail très concret et qui permet d'illustrer ce que font les fonds européens au quotidien dans nos territoires.
Et justement, vous parlez des commissions, des représentants locaux. Comment cet échange il fonctionne pour pouvoir notamment faire entendre vos voix, donc au niveau local et à l'échelle européenne, quant aux différentes propositions législatives pour faire entendre la voix des régions, justement, comment cet échange il fonctionne ?
Alors, dans notre malheur, qui est celui de la montée des populismes au niveau européen, cela a quand même servi à ce que les commissaires européens prennent conscience que des fois leurs belles hypothèses techniques, un peu théoriques, donnaient des résultats contre-productifs sur le terrain. Et donc ils ont pris l'habitude de plus en plus de siéger devant nous présenter leurs projets de législatifs et nous demander notre avis sur les répercussions qu'auraient ces projets sur les territoires. Évidemment, nous sommes confrontés au quotidien, aux aléas ou aux réussites des différents dossiers des porteurs de projets. Donc on peut vraiment illustrer ce qui se passe sur le terrain, les difficultés des porteurs de projets avec une vraie bureaucratie. Ça, c'est vrai qu'il y a une lourdeur de la gestion des fonds européens. On ne cesse de se battre pour une simplification de la gestion de ces dossiers. Mais nous sommes vraiment en première ligne pour expliquer ce qui peut fonctionner ou pas fonctionner. Et ce dialogue avec les commissaires européens arrive très en amont dans le processus législatif. On est vraiment consulté très très tôt. Et donc on a l'opportunité d'émettre des avis. On fait régulièrement des rapports, on propose des amendements, des modifications au texte. Et ces amendements sont très souvent repris par le Parlement européen. Comme nous, on est intervenu avant eux, le plus souvent qu'on peut, ils s'inspirent de nos amendements pour modifier, là aussi, les textes. Donc, on a un vrai front commun depuis assez récemment, mais maintenant, ça fonctionne bien. Un front commun entre le Comité européen des régions et le Parlement européen, les députés européens, pour montrer ce qui marche ou ce qui ne marche pas et protester quand on cherche à imposer depuis un niveau très central qui est celui des États membres. C'est pas Bruxelles et la Commission qui fait la loi toute seule, ce sont les États membres qui arrivent avec leurs priorités et on essaie de porter comme ça la voix des acteurs locaux parce qu'on est vraiment le visage de l'Europe sur les territoires et on peut illustrer concrètement comment ça se passe.
Et pour justement pouvoir défendre les régions, vous l'avez vous-même mentionné, vous vous réunissez plusieurs fois dans l'année. Et comment la région Nouvelle-Aquitaine, qui est à la fois la plus grande région de France, mais aussi de l'Union européenne, parvient-elle et parvenez-vous justement, vous, à votre niveau, à défendre les intérêts de notre territoire?
Alors, on a la chance que Alain Rousset a toujours eu conscience, c'est d'ailleurs lui qui a obtenu que les régions, quand il était président de Régions de France et que François Hollande était président de la République, qui a obtenu que les régions françaises soient l'échelon qui gère les fonds européens. Donc, il a toujours été parfaitement conscient de l'importance de l'Union européenne sur nos territoires. Et on est la région qui a le plus de personnel, notamment à Bruxelles. On a une équipe de gens qui sont en veille stratégique sur toutes les politiques, sur tous les dossiers qui avancent. Et donc, j'ai vraiment une équipe quasiment à ma disposition, mais qui est aussi à la disposition de toutes les entreprises, les autres niveaux de collectivités. Beaucoup de monde fréquente ce bureau de la Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles. Ces équipes sont vraiment très mobilisées avec les équipes de Limoges, Poitiers et Bordeaux pour m'aider à formuler des projets d'avis, vraiment être concret dans des amendements et faire évoluer la politique grâce à ces amendements dans un sens qui correspond à nos priorités. Donc c'est vraiment un travail de rédaction, d'implication dans les dossiers, de veille stratégique très en amont. Et c'est un travail qui est très mobilisant. Je passe, la semaine dernière j'étais à Bruxelles, j'y retourne tout à l'heure. C'est beaucoup d'engagement, mais c'est l'assurance que notre voix est écoutée et qu'on peut faire passer des amendements qui défendent soit nos entreprises, soit notre artisanat, nos collectivités. C'est vraiment un combat dont on voit les effets positifs, parce que plus on s'engage dans les dossiers, plus on présente des avis et des rapports, et plus notre voix est entendue. C'est vraiment une spirale positive. J'ai déjà d'ailleurs eu le plaisir de présider la commission COTER, qui est la commission la plus importante du Comité européen des régions, puisque c'est celle qui s'occupe de la cohésion et du budget. Et quand on est à ce niveau de responsabilité, notre voix porte. La Nouvelle-Aquitaine est assez bien défendue et bien identifiée dans cette instance du Comité européen des régions.
Et pour continuer à parler de la défense des collectivités territoriales au niveau de l'Union européenne, lors de la dernière plénière du Comité des régions, justement, vous avez défendu cette place dans la future politique de cohésion et ainsi qu'au niveau du cadre du semestre européen. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est leur place actuellement donc des collectivités au niveau de l'Union européenne et en quoi justement leur présence représente un enjeu ?
Alors ça, c'est effectivement un travail de longue haleine, puisque à chaque renégociation du budget européen, donc tous les 7 ans, on sent qu'il y a une épée de Damoclès sur les fonds structurels, sur la politique de cohésion, qui est un petit peu vue comme le tiroir caisse dans lequel on peut piocher quand il y a d'autres priorités, de nouvelles priorités à défendre. C'est le cas de la politique de la défense, justement, avec le conflit en Ukraine, la guerre en Ukraine. Comme l'Union européenne ne s'est pas dotée de cette politique pour l'instant, elle n'a pas de budget là-dessus et donc elle a tendance à piocher dans ce qui existe et qui est le plus gros budget de l'Union européenne, c'est le budget de la cohésion. Par ailleurs, le fonctionnement traditionnel de la Commission, c'est de travailler avec chacun des États membres. Et ce fonctionnement a été un peu accentué, malheureusement, avec le plan de relance, qui a été mis en place pour répondre au Covid. Hein. Il y avait vraiment une grande crainte que toute l'économie de l'Union européenne soit complètement stoppée, paralysée par les confinements, par l'inflation des coûts. Enfin, ce Covid a beaucoup perturbé nos économies. Il y a eu un plan de relance qui a été mis en œuvre et qui s'est appuyé sur les États membres et leur capacité à dépenser beaucoup dans une période rapide. Et ça, ce modèle-là, certains y voient des vertus en se disant si on propose de l'argent comme ça aux États membres, ils vont accepter plus facilement de réformer leurs institutions, leurs politiques, tout ce qui ne nous convient pas, nous, au niveau des États membres et de l'Union européenne. On va essayer de, dans les autres pays, on va essayer de le négocier comme ça en nationalisant nos politiques. Et ça, c'est le contraire de ce que nous, on défend, évidemment, au niveau des régions. Parce que pour nous, la compétitivité n'est pas un gros mot. Le développement économique, on connaît très bien notre compétence principale. Mais ce développement économique, il ne se fait pas par un regard très central, en se basant uniquement sur les grandes entreprises. Il se fait au contraire sur un regard territorial, en s'appuyant sur les atouts des différents niveaux, des différents territoires. Il s'appuie sur une connaissance très précise des tissus de PME en particulier, et ce sont les PME qui maintiennent et créent de l'emploi dans les territoires. Et ça, c'est une politique qui doit absolument rester régionale. Si on uniformise nos politiques, on obtiendra le contraire de ce qu'on veut, parce que c'est une politique qui va creuser des inégalités, qui sera aveugle aux atouts des territoires, qui sera aveugle au contexte géographique, au contexte économique, social. Ce serait une catastrophe pour nos territoires qu'on ne s'appuie plus sur l'échelon régional qui, lui, connaît parfaitement bien les atouts de son tissu économique. Donc c'est vraiment un combat. Là, on a ce double risque, celui d'une réduction du budget pour que ça aille financer d'autres politiques, mais aussi celui que les régions deviennent juste un outil de mise en œuvre de politiques décidées ailleurs. On serait des sortes de sous-traitants. Et ça, c'est vraiment la négation de l'efficacité des politiques publiques. C'est la négation des disparités géographiques et des atouts des territoires. Donc on se bat dès maintenant pour que cette nouvelle génération qui démarra en 2027, cette nouvelle génération de fonds européens, reste accrochée à l'échelon de mise en œuvre et à l'échelon stratégique des régions.
Très bien. Donc on va bientôt en savoir plus. Donc quand la future politique de cohésion sera mise en marche. Donc je vous remercie beaucoup Isabelle Boudinot pour le temps que vous nous avez accordé.
Je vous en prie.
Et je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.